Europe Matin Weekend.
Bérénice Bourgueil.
8h41, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Christian Blanc ce matin. Bonjour.
Bonjour Christian Blanc.
Bonjour.
Vous êtes un rescapé des attentats du 11 septembre à New York. Vous avez vécu la tragédie en direct au cœur des deux tours. Pour vous présenter, je dirais que dans votre riche carrière, vous avez été 10 ans préfet de Nouvelle-Calédonie, vous avez été 4 ans patron de la RATP et 4 ans à la tête d'Air France, et ce sera utile à New York. Vous êtes un homme du silence, je sais que vous détestez raconter ces souvenirs cruels qui furent pour tant de peuples une nuit éternelle. Le lendemain, c'est-à-dire comme aujourd'hui, 12 septembre, à la même heure, il était 2h36. Est-ce que vous étiez surpris d'être vivant, déjà ?
Bien, à cette heure-là, je recevais un appel téléphonique du Premier ministre français, me posant une curieuse question. Quel effet cela fait de passer aussi près de la mort ?
Qu'est-ce que vous avez fait ?
Je n'ai pas répondu à cette question.
Et vous avez reçu un deuxième coup de téléphone un peu plus tard, ou vous avez reçu un message ?
Alors j'ai reçu un message, effectivement, plus tard, du président de la République, Jacques Chirac, me disant qu'il faisait réserver sur le premier avion qui partait 4 ou 5 jours plus tard, d'après les prévisions, pour que je puisse rejoindre Paris.
Et alors, le 11 septembre, vous aviez rendez-vous avec le patron mondial de Merrill Lynch, vous étiez le patron en France, et qui était alors une des plus importantes banques d'affaires. Pour être à l'heure au rendez-vous, vous aviez choisi l'hôtel Marriott qui est en face de la banque. Le Marriott entre les deux tours, c'est ça ?
C'est ça, il est niché entre les deux tours.
Ouais. Et en levant les yeux, vous pouviez voir à ce moment-là, il est debout, les deux tours élancées vers les cieux.
Ah oui, quand nous avons pris notre petit déjeuner avec mon adjoint, le 11 septembre, effectivement, le temps était magnifique, le ciel azur, et les deux tours semblaient se rejoindre à l'infini.
Ouais. Et alors, vous étiez en avance à votre rendez-vous, et avec votre collaborateur, comme il est interdit de fumer dans les hôtels, vous êtes descendu dans la rue fumer un cigare.
Oui, non seulement dans les hôtels, mais un peu partout. Et je me souviens de cette expression osée, en disant « dans ce camp de pays, je n'aurai plus la possibilité de fumer avant ce soir, donc effectivement, je vais tirer quelques bouffées. » Et il m'accompagna.
Vous traversez la rue, quelques pas, et vous entrez dans la tour de la banque Merrill Lynch. Vous montrez votre badge à l'entrée et vous avez gardé le badge. J'espère qu'on
oui,
le voit.
Alors,
quelle heure est-il ?
Il est 8h46, 53 secondes. Effectivement, il se trouve que parmi les quelques rares choses que j'avais encore sur moi à la fin de la journée, il y avait ce badge.
Ouais, et le badge d'entrée. Et quand le premier avion heurte la première tour, il est 48. Et vous étiez où ?
Alors, j'étais dans l'ascenseur, je n'entends rien, je monte les 25 étages, accueilli par la secrétaire du président, qui me dit « un petit avion de tourisme vient de s'écraser sur la tour Nord ». À ce moment-là, l'ancien président d'Air France va jeter un coup d'œil et, très étonné, voit des fumées de kérosène et dit « ça ne peut pas être un avion de tourisme ».
Kérosène, ça veut dire le feu. Et d'ailleurs, il commence à se propager d'étage en étage.
Oui, effectivement, en quelques minutes, c'est ce qui se passe.
Ouais. Et d'un coup, tous les étages de l'immeuble, de votre banque, n'ont plus d'électricité.
Alors effectivement, le président charmant qui m'attendait et qui savait pourquoi je venais le voir, me propose de faire une petite tournée téléphonique des différents, de quelques centres de Merrill Lynch aux États-Unis, et panne, hein, plus d'électricité.
Alors à ce moment-là, on commence à comprendre l'ampleur du phénomène. Le personnel qui travaillait au-dessous des étages en feu va s'en aller, les autres au-dessus, les pauvres, vont grimper jusqu'au toit, croyant pouvoir sauver leur vie. Et à ce moment-là, Christian Blanc, c'est l'horreur.
Oui, parce que effectivement, l'impact a eu lieu sur la partie la plus haute de la tour, mais interdisant à tous ceux qui étaient au-dessus de l'impact de pouvoir descendre. Et donc, ils sont montés sur le plateau qu'il y avait au-dessus du World Trade.
Et ils étaient perdus.
Et effectivement, il s'asphyxiait rapidement.
Mais je sais que vous ne voulez pas raconter l'horreur, l'indicible, parce que c'est encore trop douloureux. Mais il y a des centaines de gens qui se lancent dans le vide et qui vont s'écraser plus bas.
Alors, du point
et vous les voyez.
Oui, ben, du point d'observation où je suis, parce que pendant que le président de Merrill Lynch donne l'ordre d'évacuation des 25 étages hein, de ce centre financier très important, je me réinstalle et je regarde effectivement ce qui se passe. Et ce qui se passe est effectivement très, très difficile à raconter.
Oui, dites-le, dites-le.
Effectivement, peut-être pas des centaines, mais des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes, plutôt que de mourir asphyxiés sur cette plateforme, décident d'en finir avec la vie et de se jeter. Et j'ai effectivement le souvenir d'un homme qui, tel un oiseau, s'est propulsé, a étendu ses bras, a essayé de planer, et puis
il
est mort libre, mais écrasé aussi.
Vous décidez enfin de quitter le 32e étage où vous êtes, vous descendez les 32 étages, naturellement à pied.
Oui.
Qu'est-ce que c'est autour de vous, le silence,
ben oui,
du
parce
bruit
que l'immeuble a été évacué depuis plus de 20 minutes, et nous descendons par cette tour métallique qui est l'issue de secours de ce building.
Et qui va s'écraser un peu plus tard.
Et il n'y a plus... Non, pas dans Merrill Lynch. Et effectivement, il n'y a plus que les pas de mon assistant et moi qui résonnent dans toute cette tour.
Et quand métallique. Vous arrivez dans la rue, on a raconté très souvent que la foule était paniquée.
C'est inexact. Et ça, je tiens à le souligner très fortement. J'ai vu effectivement ces flux de personnes qui sortaient de la partie basse de la tour nord. J'ai vu, de façon tout à fait incroyable, les pompiers qui montaient...
À la mort pour sauver les autres.
Ils montaient à la mort et dans un appareil étrange. Ils avaient l'habituel outil des pompiers,
inadapté.
C'est-à-dire la hache,
oui,
et des cordes. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout prêts à ce qui leur était demandé.
Et est-ce que les gens parlaient ?
Alors effectivement...
Dans le silence, il y avait quelques mots qui sortaient peut-être.
Mais bien sûr, ils parlaient parfois entre eux. Et les mots que j'entendais, c'était « disaster » et c'était « Ben Laden ». Et c'était la première fois que j'entendais parler de « Ben Laden ».
Désastre et « Ben Laden ». Et alors, il y a un phénomène qui est important à ce moment-là, c'est le vent. Et qu'est-ce qui provoque ?
Eh bien, le vent attise bien évidemment très fortement le feu. Entre-temps, j'avais vu que la tour sud était également dans la situation de la tour nord. Et ce qu'il provoque, le vent, c'est que le vent et le feu nous amènent avec David Jarvis, le Britannique qui m'accompagnait, à partir vers l'eau.
Je sais que c'est encore douloureux pour vous d'en parler. L'hôtel Marriott où vous étiez, qu'est-ce qui est devenu ?
Oh ben, il avait complètement disparu sous les gravats, les tonnes qui s'abattaient.
Donc vous vous retrouvez sans affaires, sans papier, etc. Mais ça, c'est pas important, vous êtes vivant. Et personne ne peut rester insensible. À quel moment apparaît chez vous l'émotion ? Vous sentez quelque chose qui monte et qui traduit l'horreur de ce que vous venez de voir et de ce que vous vivez.
Écoutez, je vais vous dire très précisément ce que je n'ai jamais dit. C'est-à-dire que j'ai été surpris que dans un pays comme les États-Unis, à New York, face à une telle situation, il n'y ait pas de moyen d'action autre que ce que je voyais se dérouler sous mes yeux. C'est-à-dire simplement un hélicoptère d'observation et rien comme capacité de réactivité. Je pouvais imaginer qu'ils avaient mis au point des Canadairs spéciaux.
Ça, c'est le préfet qui parle.
Oui, oui. Capables de traiter.
Et ce n'était pas le cas.
Ce n'était pas le cas.
Mais est-ce qu'il y a quelquefois des images, comme aujourd'hui, on vous force un peu, qui sortent, qui surgissent de vous ?
Non, écoutez, je pense que déjà, sur place, il fallait garder le plus grand calme. Comme la population, d'ailleurs.
Vous compreniez qu'il y avait déjà des milliers de morts et des blessés ?
Des milliers, certainement, oui.
Mais vous saviez que ça allait provoquer.
C'était pas possible qu'il n'y en ait pas, vu ce que j'avais vu précédemment.
De temps en temps, si vous regardez le badge d'entrée qu'on a montré, ou que j'espère qu'on a montré, 8h, 46 minutes, 53 secondes, c'est-à-dire moins de 90 secondes avant l'attaque de la première tour, vous vous dites, moi j'ai eu beaucoup de chance.
Oui, je ne le pense même pas, si vous voulez, mais effectivement, je suis conscient que nous sommes dans un désastre et que nous sommes passés, en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, très près de la mort.
Je sais que l'homme oiseau qui s'est élevé et envolé dans le vide et la mort vous poursuit, même si quelquefois vous voulez tourner la page. Quelle leçon politique, morale, que sais-je, vous retenez de ce que vous avez vu ?
Écoutez, il s'est passé effectivement 20 ans. Et ça m'a permis de réfléchir à beaucoup de choses. Et pas simplement de réfléchir, mais d'agir. Et j'ai fait beaucoup de choses depuis.
C'est-à-dire ?
Par exemple, le Grand Paris. Bon. Et ceci m'a quand même beaucoup occupé. Mais pour autant, d'un point de vue philosophique, je crois que ça m'a aidé à grandir. Et à comprendre que... on doit un grand respect à l'histoire de l'humanité, aux hommes, à la vie sur Terre. Et qu'il y a eu, et il y aura des hauts et des bas. Bon. Mais l'important, c'est de comprendre qu'il doit y avoir un très grand respect, y compris par rapport à des catastrophes. Il y en a eu avant, il y en aura peut-être et probablement après.
Donc une vigilance quand même à l'égard de tous les mouvements terroristes qui peuvent naître, et en même temps le respect, comme vous dites, des identités ou des civilisations différentes,
oui,
et qu'on commence à le comprendre.
La vigilance, elle est indispensable, mais pour autant, effectivement, la compréhension des identités et des civilisations qui sont sur notre Terre est essentielle. Mmh. Et nous avons tendance à avoir une approche dominante.
Christian Blanc, si vous n'aviez pas vécu cette tragédie, ces morts que vous aviez vues sous les yeux, est-ce que vous seriez le même ? Est-ce que ceux qui survivent sont les mêmes? C'est pas possible.
Oh, c'est pas un problème de survivre ou pas. Je crois que c'est un problème de prise de conscience, incontestablement. Incontestablement, j'ai beaucoup réfléchi à tout ceci.
Finalement, je sais que c'est douloureux, encore une fois, pour vous de vous exprimer, parce que vous pensez à tous ceux qui sont morts, tous les blessés, encore là-bas. Mais finalement, c'est votre goût des cigares qui est singulier, qui cette fois vous a sauvé. Vous avez eu des ennuis avec les cigares, mais si vous n'avez pas fumé le cigare, vous ne seriez pas là à Europe 1 ce matin.
Hein? Ah, c'est certain, car lorsque j'ai, partant de ce sinistre, en allant vers, dans Broadway, vers Central Park, où je rejoindrai un autre hôtel, la seule chose que j'avais sur moi, c'était le badge et le bout de cigare que je n'avais pas terminé le matin, au moment où je suis venu au pied de la tour. Et c'est vrai que j'ai compris le rôle qu'avait eu ce cigare dans ma survie.
Donc vous allez fumer un cigare tout à l'heure. Merci d'être venu, merci de ce témoignage.